Bonjour chers auditeurs, c'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard de Lépine. Nous sommes tous trois actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comme chaque premier dimanche du mois, nous proposons un entretien sur la prière. Aujourd'hui, notre partage est un peu spécial. À l'approche de Pâques, nous vous proposons un parcours qui va des procès de Jésus jusqu'à la croix. On n'est pas toujours conscient, mais il s'en est passé des choses entre ces deux moments. Qui veut commencer et par quoi ?
Ah ben moi, je veux bien commencer.
Eh bien, allez-y.
Jean-Pierre, je voudrais tout d'abord rappeler que l'an dernier, à la même époque, nous avions déjà traité de sujets assez méconnus, comme le fait que Jésus chantait des psaumes avec ses disciples. Nous avions aussi évoqué Pierre qui a voulu couper la tête de Malchus, vous vous rappelez, mais finalement il lui a coupé l'oreille. Le titre de l'émission s'intitulait « De la scène au reniement de Pierre ». Donc là, on fait un peu la suite.
Ouais, je m'en souviens. À retrouver en replay, me semble-t-il.
Oui, Jean-Pierre. Et voilà, aujourd'hui, nous allons un peu dans le même sens, évoquant des événements parfois aussi méconnus des chrétiens eux-mêmes.
Alors, et quoi, par exemple ?
Eh bien, qu'une fois que Jésus a été trahi par Judas, Jésus a été jugé à 6 reprises, au moins en comparution, on va dire, en comparution directe, hein, on en dirait aujourd'hui. Mais nous n'avons peut-être pas le temps d'entrer dans le détail des 6 procès, mais on va peut-être en voir quelques-uns.
Eh bien, puisque vous avez dit 6 procès, Bernard, eh bien, je n'imaginais pas qu'il y en ait eu autant. Alors Daniel, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, Jean-Pierre. Donc, Jésus comparait d'abord devant les sacrificateurs Anne, puis Caïphe, puis devant le Sanhédrin, qui est le tribunal des affaires religieuses juives. Ce dernier remonte au temps de Moïse, il est composé de 71 hommes respectables. Au temps de Jésus, il y avait surtout deux courants qui le composaient, les pharisiens, qui croyaient à la résurrection des morts, et les sadducéens, eux, qui n'y croyaient pas. Et Jésus a donc comparu ensuite devant le Sanhédrin, probablement au complet, pour une telle importance. Jésus, il y avait des disciples de Jésus qui ont certainement essayé de le défendre. On en connaît deux. Nicodème, qui était venu poser des questions à Jésus, ce qui nous vaut le verset central de la Bible, à savoir « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
»
Et puis Nicodème, qui avait déjà défendu Jésus lors d'une précédente Pâque. Il y avait aussi Joseph d'Arimathée, disciple en secret, nous rapporte l'évangéliste Jean, qui a demandé le corps de Jésus pour l'installer dans son propre tombeau.
Merci Daniel. Mais sauf erreur, je n'en compte que trois comparutions.
Ah oui, mais c'est parce qu'il y a aussi des tribunaux civils, romains en l'occurrence. Il fut amené devant Pilate, gouverneur romain, puis envoyé à Hérode, puis ramené à nouveau à Pilate, qui l'a condamné à mort. Donc en comptant ces 3 passages chez les Juifs, plus ceci, ça fait bien 6 comparutions différentes pour une condamnation finale par Pilate. Force est de constater qu'aucun de ces procès, on peut dire, parce que c'était un procès pratiquement chaque fois, ne rendra la justice. Pourtant, plusieurs fois, Pilate a dit qu'il ne voyait rien de répréhensible chez Jésus, et même sa femme le lui dit.
Là, vous attisez ma curiosité, Bernard.
Ben, c'est Matthieu qui en parle. Je cite, « Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message qui disait ceci en l'occurrence. « N'ai rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Vous vous rendez compte, Jean-Pierre ? Même la femme de Pilate lui conseille de laisser Jésus tranquille suite à un rêve, voire, on pourrait dire, même un cauchemar, puisqu'elle évoque des tourments.
Et alors, qu'est-ce que vous en déduisez ?
Ah ben, qu'il n'est pas possible de se voir là une simple coïncidence. Il y a une intervention surnaturelle, similaire au temps de la reine Esther. C'était aussi une intervention de nuit qui permit d'éviter, cette fois-là, un génocide juif dans tout l'Empire. Là, la femme de Pilate affirme à son mari qu'il est en train de juger Jésus, que c'est un homme juste. Je me demande, d'ailleurs, c'est rien de le confirme, mais je me demande si ce n'est pas de ce fait-là, de ces propos, que Pilate se lavera les mains devant les Juifs en signifiant qu'il se dégage de toute sa responsabilité.
Je suppose qu'il y a des temps entre chaque comparution.
Bah oui, bien sûr. Principalement au début de son arrestation, Jésus est moqué, insulté, frappé, on peut dire tabassé par des Juifs, hommes et femmes, et par des soldats romains. Et puis il y a la pose d'une couronne faite de branches d'un arbuste épineux. Lorsqu'on va dans les souks à Jérusalem, d'ailleurs, il est possible d'en acheter une semblable. Les épines sont vraiment très pointues et longues.
Ouais.
Et ce qui est bluffant, c'est que Jésus se laisse faire. Il ne se défend pas, il ne se défendra pas plus devant ses accusateurs juifs, ou même devant Pilate et Hérode. D'ailleurs, ce dernier l'a accueilli avec joie, espérant que Jésus allait faire un miracle devant lui, comme un saltimbanque ferait des pirouettes. « Allez, vas-y, fais un miracle devant moi !» Et comme Jésus ne va pas le faire, Hérode finit par le mépriser. De quelle justice parle-t-on ? On pourrait dire que le procès de Jésus est l'exemple ultime d'une parodie de justice. Jésus, l'homme le plus innocent de toute l'histoire du monde, a été déclaré coupable de crime et condamné à mort par crucifixion.
Incroyable.
Ouais, un point important que vous venez de soulever. Bernard, pouvez-vous nous dire pourquoi Jésus ne s'est pas défendu ?
Je vous donne 2-3 raisons, mais il y en a certainement d'autres. Jésus savait qu'il devait passer par là, pour que nous puissions bénéficier du pardon de nos fautes. C'est ainsi qu'il dit à Pierre, souvenez-vous, dans l'émission l'an dernier, alors qu'il venait de couper l'oreille de Malchus, il disait « Mais laisse, je pourrais être défendu par 72 000 anges. » Ben, Jésus savait, pour reprendre l'expression de l'évangéliste Jean, que son heure était arrivée. Par ailleurs, ça n'aurait rien changé, ceux qui voulaient faire mourir Jésus, de toute façon étaient butés et n'ont reculé devant rien, même pas les faux témoignages. Et puis, il fallait que les Écritures se réalisent, celles que l'on trouve dans le Premier Testament, je précise, ou l'Ancien Testament.
Ah bon, ça m'intéresse. On en reparle donc dans une fraction de seconde.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous sommes toujours dans l'émission Parole protestante. Nous parlons de ce qui s'est passé entre l'arrestation de Jésus et la mise en croix. On disait à l'instant qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. De quoi s'agit-il exactement, Daniel ?
Alors, on peut faire ici facilement référence à Ésaïe 53, un chapitre bien connu. On ne va pas tout lire, c'est un peu long, mais permettez-moi tout de même un bout de lecture. Le serviteur, Jésus donc prophétiquement, a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne peut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition que nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir. Mais lui, il a accepté cela et il a gardé le silence. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Qui a fait attention à ce qui lui arrivait ? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Il n'avait jamais trompé personne. Et ce texte donc est incroyablement prophétique. Je vous invite à lire tout le chapitre de ce que je viens de lire.
Oui, formidable.
En effet, c'est un texte saisissant de précision sur le vécu de Jésus. Je ne sais pas beaucoup si des personnes, beaucoup de personnes connaissent ce passage ou l'attribuent à Jésus. En tout cas, c'est très clair. Dites-moi Bernard, cette émission est censée être sur la prière, mais on n'a pas encore évoqué de prière à ce stade.
Ah, vous avez raison Jean-Pierre, et pour le coup, j'ai presque envie de vous répondre qu'après ce que vient de lire Daniel, le thème c'est la non-prière.
D'accord, Bernard, je ne vous suis pas trop.
Je fais exprès. Arrivé à ce stade-là, Jésus n'avait plus besoin de prier son Père pour le sortir de là. Il avait pris la décision dans le jardin de Gethsémané d'aller jusqu'au bout de sa mission, hein, de s'offrir pour le pardon de nos péchés. C'est d'ailleurs pourquoi il ne se défend pas non plus. Hein. Il confirme juste ici ou là à celui qui pose des questions qu'il est bien le fils de Dieu ou bien qu'il est roi, mais c'est très succinct. Donc à ce stade, Jésus ne prie pas, il accomplit la volonté de son Père.
Est-ce à dire que Jésus ne va plus prier ?
Ah, c'est pas exact, Jean-Pierre. On l'entend prier à 3 reprises ensuite, alors qu'il est en croix. La première, c'est Luc qui nous le rapporte. Jésus prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus demande à Dieu, son Père, de pardonner ceux qui l'ont fait souffrir de toutes sortes de manières jusqu'à ce moment de la croix. Jésus n'a pas seulement enseigné le pardon, il l'a lui-même pratiqué tout au long de sa vie terrestre. La deuxième fois, c'est lorsqu'il crie, et c'est une prière, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri déchirant montrait à quel point, en cet instant même, Jésus se sentait seul. Comment pouvait-il en être autrement, puisque Jésus portait sur lui nos péchés ? Dieu le Père, qui est saint par nature, ne pouvait pas vivre l'unité habituelle qu'il avait avec Jésus, il ne pouvait être souillé par nos péchés. Pour toute réponse, souvenez-vous, il y a eu l'orage et le tremblement de terre, et surtout, surtout Jean-Pierre, le voile du temple qui s'est déchiré du haut en bas.
Qu'est-ce que ça signifie au juste ?
Ça signifie que dans le temple de Jérusalem, il y avait un grand rideau qui interdisait l'accès à Dieu. Et donc, désormais, il n'y a plus d'obstacle pour que l'humanité ait à nouveau une relation directement avec le Dieu créateur. Si la rupture s'est produite avec le péché d'Adam, Jésus, par son sacrifice, rétablit le contact direct entre le Père et l'humanité. Le voile est déchiré, maintenant. Nous avons un libre accès au Père, nous disent les Écritures.
Formidable. Ouais. Vous avez dit 3 prières. Quelle est la 3e, Bernard ?
C'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Puis il mourut. Il y a là au moins 2 choses à retenir. C'est Jésus qui décide du moment de sa mort. Souvenez-vous, hein, il avait dit « Personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne ». Et puis ensuite, c'est une prière de confiance à son Père pour la suite des événements qui vont le conduire de la croix à la résurrection. La confiance en son Dieu, le Père, voilà ce que Jésus nous apprend à cet instant-là.
Merci Bernard, merci Daniel. Merci à vous deux, notre partage se termine déjà. Et si je dois retenir 2 idées fortes de celle-ci, je dirais que Jésus a subi l'injustice civile et religieuse, il peut nous comprendre si nous passons aussi par là. Et que c'est pour nous qu'il a donné sa vie, nous permettant de vivre dès ici-bas le pardon de nos fautes avec l'assurance de vivre aussi l'éternité avec lui. Restez à l'écoute, notre émission se poursuit dans quelques instants.
Parole protestante sur RCF Anjou.